Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci de rester fidèle à la radio Nzamba Gatikakawe. Nous sommes dimanche 23 juin 2024. C'est le grand rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée à la présentation Josephine Johnson-Gundimana.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio Nzamba Gatikakawe. Ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ouvrons cette rétrospective par la croisade de prière d'action de grâce de 3 jours qui a été organisée par la famille présidentielle. C'était le jeudi 20 juin 2024 dans la province de Mwaro. C'était dans l'objectif de remercier Dieu pour les 4 ans qu'Evariste Ndayishimiye vient de passer à la tête de l'État. À cette occasion, les fonctionnaires de l'État et les commerçants de cette province ont été forcés de donner une contribution financière pour soutenir cet événement et une somme d'argent de plus de 300 millions de francs burundais a été collectée. Le Forum pour la conscience et le développement Focodé considère ce forcing comme une autre forme de corruption contre une population déjà dans une misère et une pauvreté sans nom. Pour le Focodé, le président Ndayishimiye n'a rien fait de bon pour la population et ne mérite pas de félicitations. On écoute à ce propos Denis Ndayishemeza, vice-président du Focodé.
C'est vraiment, je dirais, aberrant que le président Ndayishimiye puisse organiser une action de grâce vu le résultat macabre des 4 années qu'il vient de passer au pouvoir. Ce sont des années où nous avons assisté à une pauvreté qui s'est accrue au niveau de la population. Le pays manque de tout. Il y a eu des violations massives des droits humains, des assassinats, des kidnappings, des disparitions forcées, la corruption bat son plein au Burundi, alors que même lorsque le pays était en guerre, la situation n'était pas comme ça. Pour ajouter le mal au mal, il impose des contributions forcées à une population qui a vraiment ne sait plus à quel se vouer, vu que dans la population, la monnaie burundaise a perdu sa valeur à plus de 1%. Si vous regardez le fait que la population burundaise manque de carburant et que les affaires ne marchaient plus, le salaire des fonctionnaires n'a jamais été augmenté, et que même ceux qui essayaient de faire un peu les affaires, ça ne marche pas. Je crois que ce que le président Ndayishimiye est en train de faire, c'est vraiment exacerber, je dirais, le mal qu'il a fait à la population burundaise. Parce que si vous regardez son bilan pour les 4 ans, c'est extrêmement négatif. Il aurait plutôt dû annoncer des mesures pour dire ce qu'il reste pour terminer son mandat de 7 ans, pour alléger la souffrance des Burundais au niveau économique, au niveau des droits humains, même au niveau de l'ouverture de l'espace civique et de l'espace politique. Mais lui, ce qu'il a choisi, c'est d'enfoncer le clou en imposant des contributions forcées, en obligeant aux pauvres fonctionnaires de la province de Mwaro de contribuer financièrement, acheter par force d'épargne. Donc, pour nous, c'est vraiment une violation de plus des droits des Burundais. C'est une corruption, un acte de corruption de plus. C'est un autre signe de mauvaise gouvernance et de manque de liberté, de privation de liberté du peuple burundais. Et pour nous, c'est déplorable. Ce qui reste, je crois que c'est vraiment une action populaire qui reste pour dire au président Ndayishimiye que trop c'est trop.
Même son de cloche pour l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olcom, qui qualifie de vol et de détournement de fonds de la population qui vit dans une misère sans précédent. Jean-Louis Mana, le porte-parole de l'Olcom, demande à ce que l'organisation de ces croisades soit restructurée afin de cesser de sucer la population déjà appauvrie. Suivez le porte-parole de l'Olcom, Jean-Louis Mana.
Nous, au niveau de l'Observatoire, nous disons que quand même c'est trop. Voir la situation économique qui prévaut aujourd'hui, et ces croisades demandent énormément de moyens. D'ici la période d'organisation de ces prières. Et il faut vraiment que tout le monde le sache. L'état du Burundi, c'est un état laïque. Prières et les affaires de l'état se diffèrent. Vraiment, nous le disons, nous le répétons, chaque fois qu'il y a l'organisation des croisades, et que les concernés vraiment se préparent en conséquence, et qu'il n'y ait pas vraiment des cotisations à la hâte, des cotisations forcées dans les milieux où s'organisent ces croisades. Et nous venons d'entendre qu'à Mualo, la population est forcée de payer quoi que ce soit. Les intellectuels, les commerçants et les natifs de Mualo sont forcés de payer des sommes colossales pour l'organisation de ces croisades. Il faut vraiment que la population ne soit pas contrainte de payer, de verser des vivres pour cette croisade. Vraiment, nous demandons avec insistance que les croisades qui s'organisent ici et là ne consomment pas vraiment la population qui sont déjà consommées, qui sont déjà dans les misères sans précédent.
Toujours sur les 4 années du régime d'Aïchimie, le Parti Fraternité des Patriotes Inéza estime que le pouvoir d'Évariste d'Aïchimie n'a rien apporté, car le parti CNDD-FDD n'a jamais exposé des programmes clairs visant l'intérêt général de la population. Francis Lohéro, le président de ce parti, explique que le pouvoir des 4 ans s'est caractérisé plutôt par la vie chère, la hausse des prix des produits de première nécessité et la pénurie de certains produits. Pour lui, les acteurs politiques souhaitant prendre le pouvoir devraient savoir exposer des réponses claires aux problèmes auxquels les Burundais font face. Suivez Francis Lohéro, il était au micro de la radio Isanganiro.
Je devrais d'abord rappeler qu'il y a 4 ans, et juste sa nomination à la candidature de son parti, le candidat de cette époque qu'il avait annoncé n'avait pas un programme à lui. Et après, au début de la campagne électorale, il avait même signifié que le peuple burundais ne votait pas pour des programmes, qu'il votait pour celui qui a eu une certaine utilité dans sa vie. Il faisait référence peut-être au fait que le parti au pouvoir avait combattu. Alors aujourd'hui, 4 ans après, l'évaluation me va dans le même sens. Sans programme et sans une effectivité, ce qu'il cherchait en soi, notre pays est parti dans une logique d'affaires courantes et non pas à s'organiser vers les grands objectifs pour reconstruire cette nation, pour le mettre à un niveau de développement qu'il espérait. Ainsi, par exemple, si je fais une allusion, en 2020, le Burundi avait un budget qui oscillait autour de 1 800 milliards. Nous sommes montés jusqu'à 4 000 milliards dans les 4 ans, avec une évaluation qui est poussée à 71% dans le sens d'un budget de fonctionnement, avec un budget d'investissement qui va à moins de 30%. Tout cela signifie ce qu'on est en train de voir, la rareté même des biens et la cherté des biens et des services dans le milieu économique et socioprofessionnel. Alors, c'est ça le bilan. Je n'ai pas cherché midi à 14 heures. Le Burundi est en difficulté parce qu'on est habitué à marcher à vue, sans un programme, sans des objectifs d'envergure dans le sens économique et social. J'ai toujours dit que je me mets dans une logique où l'homme politique burundais doit apprendre. On ne peut pas continuer à se dire que les Burundais doivent voter grâce à un passé qu'ils ignorent ou dans un sens où ils se disent tellement a fait cela, nous sommes en train d'aller vers l'avenir. Nos enfants doivent savoir ce qu'ils vont faire en 2030. Alors, il faut que ça se fabrique. Et qui doit le faire? C'est des partis politiques. Ils doivent chercher des techniciens qui font ces choses. Et les Burundais aujourd'hui qui sont au pouvoir, ceux qui n'y sont pas, ceux qui cherchent à y être, nous devons continuer à apprendre, à nous former pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui.
Une petite pause pour continuer.
Inzamba.
Le président rwandais Paul Kagame condamne pour la énième fois la collaboration des troupes burundaises envoyées à l'est du Congo avec les forces génocidaires FDLR installées sur le sol congolais depuis plus de 30 ans. Le président Paul Kagame l'a dit le jeudi dans une interview accordée à la radio RFI. Suivez.
Rwanda, we have always been present.
En ce qui concerne mon pays, le Rwanda, nous avons toujours été présents et avons contribué dans la mesure de nos moyens à l'amélioration de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, le président de la République démocratique du Congo s'appuya sur d'autres idées, a invité les États de la communauté sud-africaine à envoyer des forces pour amener la paix à l'est du Congo. Contre toute attente, le lendemain, il les a expulsés, puis a invité d'autres forces qu'il a soigneusement sélectionnées, pensant qu'elles se battraient à ses côtés. C'est ainsi qu'il a fait intervenir les forces de la SADC, tout en maintenant les forces armées burundaises sur le sol congolais. Toutefois, toutes ces actions sont confuses, mais elles le sont surtout pour ceux qui se plaignent aujourd'hui d'être en difficulté. C'est une menace, car le Congo ignore le problème de ses citoyens actuellement privés de leurs droits. Il les persécute, il les tue, il y a des discours de haine, une idéologie génocidaire qui est à l'œuvre à l'est du Congo. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Il y a cette persécution à l'encontre de la communauté Tutsi qui est en train de subir le même sort que celui qu'a subi les Tutsi du Rwanda en 1994. Il y a le soutien des forces négatives FDLR qui sont des forces génocidaires présentes au Congo depuis plus de 30 ans.
These are genocidal forces that have been in Congo for close for now 30 years actually.
L'actualité qui a marqué cette semaine, c'est aussi le dossier en rapport avec l'éducation. 60 filles et 28 garçons inscrits en classe de 9e fondamentale pour l'année scolaire 2023-2024 ont abandonné l'école, selon une source proche de la direction provinciale de l'éducation à Muyinga. Selon cette source, ces abandons sont liés à des causes variées comme les grossesses non désirées et les mariages précoces chez les filles ou encore la recherche d'un travail rémunéré pour les garçons. Les communes de Muyinga et Gachoho viennent en tête de ces abandons. Suivez les détails.
Sur un effectif total de 3333 élèves régulièrement inscrits en 9e année de l'école fondamentale en début d'année scolaire 2023-2024, en province Muyinga, 88 ont abandonné l'école pour diverses raisons avant le grand rendez-vous de la passation du concours national, a déclaré une source proche de la direction provinciale de l'éducation. Sur les 88 abandons, 60 sont des filles et les 28 autres sont des garçons, précise la même source. Certaines de ces 60 filles ont eu des grossesses non désirées, d'autres se sont mariées précocement, explique la même source. Du côté des garçons, les abandons sont plus liés au départ pour la recherche d'un travail rémunéré, surtout en Tanzanie, tandis que d'autres ont été renvoyés pour violation du règlement scolaire. La commune Muyinga vient en tête avec 18 abandons, Gachoho 17, Utijinda 15, Iterani 12, Gasolgwe 11, Uhinuza 10 et Mwakiro 5. La direction provinciale de l'éducation lance un appel aux parents et aux administratifs à la base pour appuyer les éducateurs dans la sensibilisation des élèves sur les bienfaits de l'école.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité, abordons le dossier en rapport avec les réfugiés. Le 20 juin, c'était la journée internationale des réfugiés. Cette journée est arrivée au moment où les réfugiés burundais vivent dans des conditions difficiles dans les pays de la région, surtout en Tanzanie où ils sont régulièrement persécutés et forcés de rentrer au pays. C'est ce qu'a constaté la coalition burundaise pour la défense des droits des réfugiés vivant dans les camps CBDH-Vicar. L'organisation appelle l'OACR et la communauté internationale à tout faire pour que les réfugiés soient traités dignement dans le strict respect de la loi en la matière. On écoute Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la coalition CBDH-Vicar.
La CBDH-Vicar recommande au Haut Commissariat pour les réfugiés d'exhorter aux pays hôtes le renforcement des mesures de sécurité dans les cas des réfugiés, d'intensifier les efforts de médiation, de dialogue avec les autorités locales pour assurer la sécurité et la protection des réfugiés. Nous recommandons aussi aux pays hôtes d'augmenter les ressources dédiées à la sécurité, à la santé et aussi à l'éducation dans les cas de réfugiés, de mettre en place des programmes de soutien économique pour permettre aux réfugiés de devenir plus ou moins autonomes et aussi de contribuer dans l'économie locale. Nous recommandons aux pays partenaires de fournir un soutien économique et matériel pour améliorer les conditions de vie de ces réfugiés dans les camps, y compris l'accès à la nourriture et aux soins de santé, d'investir dans des projets de développement durable qui bénéficient à la fois aux réfugiés et aux communautés locales. La CBDH-Vicar recommande aussi aux Nations Unies, département droits de l'homme, de mettre en œuvre des mécanismes de surveillance et de protection pour garantir les droits fondamentaux des réfugiés et prévenir les violations, et enfin de promouvoir des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination des réfugiés.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un bon dimanche chez vous, à la prochaine.
Ngije nzamba.
Nzambi rasamirana.
rétrospective de l'actualité de la semaine.